Acte 26, 16. Ah oui, alors on va essayer. Je vais demander à Maxime. Donc c'est en principe, les versets que je vais lire sont dans la seconde 21 et on fait une tentative. Je vais demander à Max s'il peut afficher les versets. Acte, normalement, 24, 16. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Comme j'ai un peu maladroitement l'habitude de dire, s'il y a quelque chose à se rappeler de ce matin, c'est ce verset. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Tout un programme au quotidien. Le mot conscience apparaît plus de 30 fois dans le Nouveau Testament. C'est le gardien de mon âme, celui qui voit tout, celui qui juge tout, c'est la petite voix. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'ai souvenir de dessins animés quand j'étais gamin où il y avait un petit insecte qui jouait la conscience de Pinocchio, je ne sais pas trop qui, n'est-ce pas? Qui ça? Voilà, Geppetto. Jiminy, n'est-ce pas? C'est le gardien intérieur de notre âme qui juge tout ce que nous faisons, disons et pensons. Mais pour faire court, notre conscience n'est pas toujours fiable. Un commentateur anglais disait « Notre conscience a quelque chose de commun, j'aime bien les images, avec un cadran solaire ». Les gens qui viennent du sud de l'Italie doivent savoir ce que c'est qu'un cadran solaire, parce que là-bas, il y a beaucoup de soleil, donc sur les façades de maisons, il y en a. Mais le cadran solaire, pendant les heures du jour, quand le soleil brille, il a donné une idée précise de l'heure. Hein, l'ombre projetée, voilà. Mais lorsque la lumière disparaît, les nuages sont là, il n'y a plus que la lune qui brille, l'indication, la lecture, elle ne devient pas tout à fait fiable. Soit parce qu'elle est obscurcie par le péché, ma conscience doit être en permanence éclairée par la lumière de l'Éternel, de la parole de Dieu, pour donner toujours la bonne heure à ma vie. L'apôtre Paul pouvait dire en toute confiance, acte 23, 1, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Ah, il y a des versets qui vont... C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Acte 23, c'est ça. Verset 1. On ne peut jouir d'une paix intérieure, une paix d'esprit, que si ce gardien intérieur de notre âme est continuellement sensibilisé par la parole de Dieu. Nous devons faire attention à ne pas laisser notre conscience s'émousser, arrondir les angles. Nous ne devons pas nous engager, en introduction, dans les mauvaises habitudes, ni accepter, on est en plein dedans aujourd'hui, les normes morales du monde d'aujourd'hui. Avez-vous bonne conscience? As-tu bonne conscience? Une question que je vous pose, que je me pose ce matin. Quelqu'un que vous connaissez, que vous avez entendu parler, je pense, un dénommé Martin Luther King, a écrit dans un bouquin qui s'appelle « La force d'aimer », il a écrit cette phrase « L'Église n'est ni le maître, ni la servante de l'État, mais elle en est plutôt la conscience. Elle doit être le guide et la critique de l'État, jamais son instrument. » Martin Luther King, « La force d'aimer ». Délicat, hein ? D'être la conscience de l'État aujourd'hui. Et justement, l'actualité. Je ne sais pas si vous écoutez un peu l'actualité. Moi, je passe pas beaucoup de temps, mais je regarde Google News, ça fait une synthèse et ça permet. Et il y a des infos qui remontent comme ça. Vous avez entendu parler très récemment de la prise de position écrite officielle de Christine Boutin. Vous en avez entendu parler ou pas? Madame Christine Boutin, parce qu'elle n'est plus ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate, a affirmé dans un journal interviewé qui a été publié, l'homosexualité est une abomination, mais pas la personne. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur peut toujours être pardonné. Elle a quand même une conscience qui la pousse. Je ne vous explique pas, tout de suite elle a été attaquée, elle va avoir des procès, voilà. La conscience de cette femme, femme politique, malgré, elle va s'en prendre plein les dents, hein, on va dire ça humainement parlant, elle avance. Garder la foi et une bonne conscience. Alors, Max 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 et 19. Le commandement, que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est... Qu'est-ce que Paul entend par une bonne conscience? Je vais vous lire Luc, chapitre 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, au vu de certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, sera élevé. Alors, une bonne conscience. On est ce que l'on doit être en tant qu'enfant de Dieu. Et on fait ce que l'on doit faire. On a une bonne conscience, on doit être sur le chemin que Dieu a tracé pour ses enfants. On a bonne conscience lorsqu'il y a de la liberté dans nos rapports avec Dieu. Ça, pour un enfant de Dieu, c'est magique. On a bonne conscience lorsqu'il y a de la liberté dans nos rapports avec Dieu. On a tendance à se cacher quand ça va pas. Comme si on pouvait se cacher aux yeux de Dieu. Mauvaise conscience. Conséquence numéro un pour un enfant de Dieu. Trouble notre communion avec notre Dieu. C'est l'inverse, c'est le pendant de ce que l'on dit précédemment. Prier Dieu avec mauvaise conscience, c'est prononcer des paroles, des phrases toutes faites. Quand on ressort de notre temps de prière, on a le sentiment, on s'en souvient à peine, pas sûr qu'on ait vraiment prié, un petit coup de communion qui n'y est pas. Une mauvaise conscience est un obstacle à une réelle communion avec le Seigneur. Nous avons, encore une fois, je le rappelle, une bonne conscience lorsqu'il y a de la liberté dans notre relation avec Dieu, qui passe d'une manière personnelle au pardon, à la confession. On sait tous que si on enterre nos petites choses, elles regerment. On a la joie d'une bonne conscience lorsqu'on est aussi en accord avec nous-mêmes. Seigneur, il nous a mis quelque chose, et en plus en tant qu'enfant de Dieu, je dirais que la conscience pour un enfant de Dieu, c'est un peu comme le gouvernail du bateau, quoi, vous voyez, clac. Gouvernail. La parole de Dieu nous dit qu'une bonne conscience nous aide à garder la foi. En abandonnant cette bonne conscience, plusieurs ont fait naufrage dans la foi. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous. Foi et conscience vont de pair. Telle foi, telle conscience. La foi fournit à la conscience des principes, une règle, un idéal tracé par Dieu. Le Dieu auquel je crois détermine ma conscience. Le Dieu auquel je crois détermine ma conscience. Une mauvaise conscience peut conduire à l'incrédulité. Jeudi soir, je fais une petite parenthèse, on a eu une étude assez sympa, pardonnez-moi pour ce mot barbare, on a parlé du syncrétisme, n'est-ce pas ? En un mot, le syncrétisme, normalement, c'est prendre plusieurs religions, d'en faire une tambouille, et de s'en construire une nouvelle, quoi. C'est ça, le syncrétisme. Mais aussi, il y a eu des réflexions à la fin, attention de ne pas se faire un syncrétisme personnel, en oubliant des pans entiers de la parole de Dieu qui nous gênent, qui nous dérangent, qui me chagrinent, que je saute à pieds joints. Le Dieu auquel je crois, sa parole détermine ma conscience. Une mauvaise conscience peut conduire à l'incrédulité, et donc le gouvernail peut basculer, peut orienter le navire vers des passions, vers des difficultés, vers des convoitises, vers le naufrage. Pardon. Si nous voulons maintenir le bon cap et parvenir au port sans dommage, nous devons être attentifs aux mises en garde que la parole de Dieu nous donne. On a parlé en introduction de la réflexion de Madame Boutin. On est depuis quelques années, c'est très court, l'homosexualité masculine, féminine, et ainsi de suite, est devenue la norme. Nous partagions avec quelques chers frères et sœurs, la pornographie saute aux yeux des écrans de partout. Nos enfants sont les premiers à en prendre plein la figure. Attention! La norme, la conscience du monde va devenir à 180 degrés, est aujourd'hui à 180 degrés de ce que dit l'Évangile, de ce que dit Dieu. Ce qui veut dire que demain, la bonne conscience de mes voisins, de tes voisins, c'est déjà d'actualité. C'est que l'homosexualité, c'est normal. Vous n'avez pas vu aussi, il y a un nouveau truc. On connaissait la théorie du genre, c'est-à-dire vous pouviez dire moi finalement Guy, j'en ai marre, je vais à la mairie, je me déclare femme et je m'appelle Louisette. Non mais rigolez, dans des pays vous pouvez faire ça. Mais il y a mieux, c'est qu'aujourd'hui vous avez la possibilité du non-genre. Vous avez des pays en Australie, en Allemagne, vous allez à la mairie, vous dites je sais pas ce que je suis. Et sur votre carte d'identité, Dufour, masculin, féminin, rien, neutre. C'est la réalité. Ça veut dire que dans l'inconscient collectif, de la société. Demain, la bonne conscience, dites, je ne vais pas faire un peu vieux, mais est-ce que vous vous souvenez, les plus anciens d'entre nous, des cours de morale à l'école? Nous, on est quelques-uns à avoir eu des cours de morale, n'est-ce pas? T'en as eu, Michel, je pense. Non, t'as pas eu des cours de morale. Moi, j'ai eu des cours de morale. Et on nous disait, voilà, que pour avoir une bonne conscience, on nous donnait des règles. Et bien demain, l'école va faire des cours de morale en disant, accrochons-nous à la conscience de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ne nous laissons pas embarquer, ça ne va pas être simple pour nous, hein. Ça ne va pas être simple. Ésaïe 50, 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. 100% d'actualité. Ésaïe 50, 20. Alors, notre conscience, sa fonction est de nous reprendre lorsque nous perdons le contact avec Dieu. Hop, heureusement, hein, Jiminy, qui est là, qui nous dit. On peut perdre le contact avec Dieu facilement, hein. Il suffit d'avoir un gros caillou, un bon péché qui arrive là, boum, pif. Ça met pas longtemps, hein, pour se déconnecter. Notre conscience est là pour condamner le mal et approuver le bien voulu par Dieu. Notre conscience se joint à notre intuition pour que nous nous sentions mal à l'aise quand les décisions. Vous vous sentez bien mal à l'aise. Il y a des moments où j'y vais pas, C'est jamais tout blanc, voilà. Notre conscience agit. Notre conscience donc se joint à notre intuition lorsque nous sentons mal à l'aise, chaque fois que nous avons une mauvaise pensée ou que nous agissons en déplaisant à Dieu. Avant de connaître Dieu, on vivait éloigné de Dieu, on vivait par définition dans le péché. Notre conscience était incapable de fonctionner normalement. Même si on pouvait dire telle ou telle personne, « Waouh, dis donc, elle vit bien, elle a des règles, tout nickel. » Par définition, pécheur, sans connaître Dieu, on ne peut pas avoir le bon guide, le bon gouvernail, n'est-ce pas? À la nouvelle naissance, notre esprit revient en quelque sorte à la vie, et notre conscience est la première chose que le Saint-Esprit réveille, n'est-ce pas? Puisqu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Sorti de sa torpeur du monde, notre conscience nous permet de nous voir tels que nous sommes et de nous, je vous retourne vers Sam, d'être complètement ébloui par la sainteté de Dieu et de se rendre compte au combien on peut être pécheur sans pour autant avoir tué père et mère ou faire quoi que ce soit ou avoir eu une gentille adolescence tranquille. Cette comparaison vis-à-vis de Dieu, c'est ce qui nous amène à la repentance, qui va agir sur notre conscience. 1 Jean 1, 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ nous purifie de tout péché. C'est au moment où je reconnais Christ comme mon sauveur, que je reconnais l'œuvre accompli sur cette croix, le sang de Jésus lave absolument tous nos péchés et on ne se sent plus condamné par notre conscience. On pose notre sac à dos. Vous savez, on a cette image de la conversion. Seigneur, je pose tous mes péchés, je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Et on se sent léger parce qu'on a tout posé. On a une conscience extraordinaire. On est complètement changé. Ça veut dire que Dieu, par son esprit, a attrapé le jour de notre conversion, le gouvernail de notre être, n'est-ce pas? De notre vie. Parce que quand on est né de nouveau, quand on est tout frais moulu, on est une nouvelle créature. Dieu rentre et attrape la barre de notre conscience, guidée, illuminée par l'Esprit Saint, que nous sommes scellés même, nous dit sa parole. Et la conscience purifiée, vous pouvez vous approcher par l'Esprit, par la foi, vous approcher de Dieu. Alors, le sauter, Hébreux 10, les versets 19 à 22. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée, donc Jésus, pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre ou sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pour revenir au début, à la genèse de notre vie chrétienne, souvenez-vous, j'espère que vous vous souvenez de tout votre cœur, ou combien ces instants de notre premier amour avec le Christ, où on se sent lavé, purifié d'une bonne conscience que seul Dieu peut accorder à ses enfants. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, être mis à part pour Dieu, avoir une vie conforme à sa volonté, alors obéissons scrupuleusement à la voix de notre conscience purifiée, guidée par l'Esprit Saint. Quelqu'un a dit, car une conscience sanctifiée, c'est pas moi, est le saint murmure de Dieu dans mon âme. J'ai à faire un choix, j'ai à faire une décision, je dois faire ci, je dois faire ça. Je le partage avec qui ? Je vis des combats terribles dans la semaine. Je m'envoie comme c'est pas permis, je grenouille tout seul, je tire le rideau vis-à-vis du Seigneur, ou Dieu, tu peux quelque chose pour moi. Romains 9, 1 dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Paul dit ça, Romains 9, 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ainsi, si notre conscience nous reprend, nous informe que nous nous égarons par rapport à la volonté de Dieu, il ne faut pas essayer de la faire taire ou de tirer la barre de l'autre côté. Parce que bien vite, après, arrive la mauvaise conscience. Et en réalité, pour des enfants de Dieu, la mauvaise conscience, c'est quoi ? Eh bien, c'est la manifestation de la bonne conscience, n'est-ce pas ? Sinon, on serait conscient de rien. Tant qu'on se pose des questions, amen. Ça veut dire que notre conscience est agie sous l'impulsion du Saint-Esprit et qu'on la laisse faire. Notre conscience ne se borne pas à juger entre le bien et le mal, mais elle doit aussi nous conduire à faire la volonté de Dieu. C'est notre destinée d'enfant de Dieu. Galates 5, 16, je ne vais pas le lire. Galates 5, 16, 17. Je m'en. La conscience est un peu, pour donner une autre image, comme une fenêtre, autre que, on a parlé du cadran solaire, on peut parler de la fenêtre. Servir le Dieu vivant, c'est bien sûr, allez, une métaphore, agir en obéissant à sa parole. Suis-je capable de dire comme David, dans le psaume 139, les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » 139, le psaume 23 et 24. La conscience est comme une fenêtre dans notre esprit, et par cette fenêtre, la lumière de Dieu brille, illumine tout notre être entier. Si on laisse cette lumière briller en nous, eh ben, elle va tellement porter des fruits, elle va faire tellement d'actions qu'elle va agir sur notre conscience, on va pouvoir avancer. Mais si cette fenêtre, je fais une métaphore pour les myopes, une des caractéristiques, quand vous voyez quelqu'un qui a des lunettes qui ne sont pas propres, c'est très souvent un myope. Parce que la première chose que fait un myope le matin, c'est de mettre ses lunettes, et la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il les enlève le soir. Par contre, tout doucement, on a le sentiment qu'elle devient pour moi, qu'elle devienne, on y voit, on dit, je comprends bien, je vois pas bien, c'est un peu flou, c'est un peu trouble. Et puis, ma conscience ou mon épouse, bien souvent, me dit, va donc nettoyer tes lunettes. Donc, je prends un merveilleux chiffon ici l'or, je nettoie mes lunettes, et de nouveau, je retrouve le lit. Ça veut dire que cette fenêtre de l'Esprit de Dieu qui brille en moi, elle peut tout doucement, jour après jour, par des péchés, par des fautes, par l'environnement qu'on a autour d'entre nous, eh bien, il peut y avoir, elle devient grise, il n'y a plus que les mauvaises UV qui passent à travers, il n'y a plus du tout ce qui fait briller notre esprit. Si nous laissons donc la lumière accomplir son œuvre, si nous écoutons la voix de notre conscience, si nous rejetons le péché qu'elle condamne, alors la lumière de Dieu brillera de plus en plus fort et nous aurons des victoires personnelles. C'est un mot qu'on n'ose pas parler, le mot victoire. Mais jour après jour, on a besoin dans nos vies. La vie chrétienne personnelle, elle est faite de combats, elle est faite de chutes, elle est faite de victoires. Et on a besoin au quotidien de s'appuyer. On a parlé de Job ce matin, je vais vous dire, au niveau combat, il a eu sa dose. Mais personnellement, je ne veux pas faire de dessin. Il n'y a personne ici, dans cette salle, qui n'a jamais eu de combat vis-à-vis de sa conscience, n'est-ce pas? Le seul moyen de nous en sortir, c'est de se laisser éclairer par notre Dieu. Tite 1,15 dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Ça veut dire que notre conscience peut très vite devenir un mauvais gouvernail. Tout doucement, au même titre que mes lunettes, elles deviennent sales, eh ben, je prends un mauvais chemin. 1 Timothée 1,19 à 20, hein, vous le lirez. C'est ce qui est arrivé à Hyménée et Alexandre, qui, à force de pécher délibérément et de faire taire leur conscience, qui tentait de les rappeler à l'ordre, ont fini par perdre complètement leur conscience et faire naufrage quant à leur foi. 1 Timothée 1,19 à 20. Rappelons-nous qu'une bonne conscience nous donne de l'assurance devant Dieu, car nous n'avons absolument rien à craindre, rien à nous reprocher. Et tout ce que l'on fait, on a satisfait, comme un enfant qui est tout content de venir voir sa mère et qui lui dit « Maman, voilà, j'ai fait quelque chose, je t'ai obéi, j'ai fait quelque chose de bien. » 1 Jean 3, 21-22 « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Pour pouvoir faire quelque chose d'agréable pour Dieu, il faut être en communion, il faut être agréable à Dieu. Elle nous donne aussi de l'assurance devant les hommes, car nous nous sentons approuvés et soutenus par Dieu. Quand vous allez sur, je ne sais pas, l'exemple qui vient à l'esprit, sur un trottoir et que vous allez annoncer la bonne nouvelle, ben, il faut y aller soutenu et encouragé et approuvé à 100% par Dieu, n'est-ce pas? Elle nous donne donc de l'assurance devant les hommes. Acte 23, verset 1, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, homme, frère, virgule, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul se dit ça devant le Sanhédrin. Oh. Chers amis, les hommes et les femmes peuvent se tromper sur notre compte, sur mon compte, sur ton compte. Nous pouvons être mal jugés par nos contemporains. Nous pouvons être loués ou admirés à l'excès. Mais seul ce que Dieu pense de moi est primordial. Seul ce que Dieu pense de moi est primordial. Tout découle de là. Si je désire marcher par l'esprit, une bonne conscience, une bonne relation avec Dieu est essentielle et fondamentale. Un enfant de Dieu qui a une bonne conscience pure, c'est qu'il est agréable à Dieu. Et cette approbation le remplit de paix. Rempli de paix. Alors, pour conclure, attention au quotidien de ne pas laisser émousser notre conscience, de l'affûter régulièrement pour les mécanos, d'avoir des arêtes bien tranchantes. Ne permettons à aucun péché de blesser notre conscience. Pardon. Pas de technique de l'autruche vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez tout ce que c'est que la technique de l'autruche. Si nous nous apercevons que notre conscience est flétrie ou qu'elle a perdu de ses sensibilités, danger. Notre conscience doit grandir en harmonie avec notre connaissance des Écritures sans qu'il y ait de décalage. Si nous savons beaucoup de choses mais que nous ne les mettons pas en pratique, c'est que ma conscience est un peu endormie ou qu'elle ne grandit pas en adéquation avec ceci. Une bonne conscience est essentielle pour tout enfant de Dieu. Sinon, ma vie spirituelle va devenir rapidement extrêmement stérile. Mon zèle pour le Seigneur baisse. Mon amour se tombe, l'amour agapé, n'est-ce pas, vers mon frère, ma sœur, mon prochain, ma famille. Qu'est-ce que je donne à manger à ma conscience? C'est pas de moi. Ainsi, la valeur de ma spiritualité ne se mesure pas dans la somme de mes belles paroles, ni de mes nombreuses œuvres. Elle se mesure à la sensibilité de notre conscience et à notre obéissance à sa voix. Amen.